la cotisation, elle, c'est pas de la redistribution. Même si tout est fait aussi pour qu'elle soit lue comme telle, d'ailleurs. La cotisation, c'est de la répartition primaire. C'est-à-dire que elle n'est pas assise sur un revenu préalablement distribué. À la différence de l'impôt, qui est assis sur un revenu préalablement distribué. Et qui donc nous fait croire que il pique sur ce revenu et donc sur le travail de celui qui reçoit ce revenu. Alors que c'est les fonctionnaires qui produisent l'impôt, bien sûr. Ce ne sont pas des utiles non productifs. Et depuis les années 70, au demeurant, les services publics, enfin l'administration, dans la comptabilité nationale, est réputée produire de la valeur économique et... on la mesure par l'addition du salaire des fonctionnaires. Donc on mesure cette valeur non pas par le temps de travail, mais par la qualification des producteurs. La cotisation, elle fait partie de ce qu'on appelle la répartition primaire, c'est-à-dire que la valeur ajoutée se répartit entre salaire et profit. Mais lors de la répartition, au moment où se fait la répartition, les employeurs, enfin, la ponction qui va au salaire est double. La ponction sur la valeur ajoutée qui va au salaire, c'est à la fois le salaire direct et un salaire socialisé sous forme de cotisation qui est calculé en pourcentage d'un salaire brut, qui est une fiction, mais qui n'est pas ponctionné sur le salaire, qui est un élément du salaire. Sauf que, pour que cet élément socialisé ne disparaisse pas, il doit être ponctionné sur la valeur ajoutée dans la même proportion que le salaire direct. Globalement, lorsqu'on ponctionne 100 sur la valeur ajoutée pour le salaire, il faut ponctionner 85 pour la cotisation, puisque la cotisation, c'est l'équivalent de 85% du salaire direct, ou 66% du brut. Donc, la cotisation n'est pas une ponction sur le salaire du marché du travail ou sur le profit. La cotisation, c'est une ponction sur la valeur ajoutée qui est partagé, non pas en deux, mais en trois, d'accord. Et la partie cotisation est calculée en pourcentage du salaire, mais ça ne veut pas dire qu'elle est assise sur le salaire. Elle est assise sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est forcément salaire et profit. Il n'y a pas d'autre solution pour la valeur ajoutée, puisque c'est le chiffre d'affaires moins toutes les consommations intermédiaires. Et donc, ce qui reste, c'est salaire et profit. Bon. Et la cotisation introduit dans le partage de cette valeur ajoutée une partie socialisée du salaire, qui est calculé dans la même proportion que le salaire, d'accord, mais qui n'est pas prise sur le salaire, en aucun cas. Qui n'est pas prise non plus sur le profit. Parce que la cotisation, elle augmente le chiffre d'affaires, puisqu'elle augmente les prix. La cotisation augmente le PIB. Elle n'est pas prise sur le profit, elle n'est pas prise non plus sur le salaire du marché du travail. Elle ajoute la valeur produite par les retraités, les soignants, en fait, etc., qui est inclus dans le prix des marchandises. Hein, parce que cette valeur, on ne peut pas la reconnaître par de la monnaie correspondant à la marchandise produite par les retraités ou les soignants, puisqu'ils ne produisent pas de marchandises, justement. La monnaie correspondant à la valeur produite par les retraités, les soignants ou les parents ou les chômeurs, elle est incluse dans le prix des marchandises. Hein, le prix des marchandises est augmentée par la cotisation, bien sûr, mais cette cotisation ne correspond pas à la valeur de la marchandise. Ce n'est pas une ponction sur le travail de celui qui a produit la marchandise. Pas du tout. C'est un ajout au prix des marchandises, parce que le prix des marchandises, dans des pays qui ont une cotisation sociale, le prix des marchandises inclut la valeur produite par ceux qui vont être payés par la cotisation. Ne raisonnons jamais à PIB constant. Sinon, si on ajoute une cotisation, c'est forcément pris sur quelque chose, si on ajoute. Mais non, cet ajout ajoute au PIB. Le PIB n'est pas constant. Lorsque Croizat double le taux de cotisation à la Sécu, il pique rien sur rien. On ne produit pas grand-chose en France à l'époque. Il pique rien sur rien. Il augmente les prix, forcément. Il y a une création monétaire induite pour faire circuler ces marchandises dont le prix est plus élevé. Et cette création monétaire, comme je l'ai dit, n'est pas inflationniste parce que elle reconnaît la valeur produite par les parents. Donc la cotisation famille, c'est un ajout au PIB. Alors certes, quand on calcule ensuite la structure du PIB, ça va réduire la part du profit, ça va ? Dans ce PIB nouveau, la part du profit est réduite. Mais cette réduction de la part du profit ne vient pas d'une ponction sur le profit. Mais c'est décisif, ça, parce que ça nous aide à comprendre aussi les 5 ou 6 points en moins pour le salaire depuis 30 ans. C'est pas parce que les actionnaires se gobergent et qu'en les ponctionnant, ça va résoudre tout. Ça, c'est de la connerie. C'est parce qu'on n'augmente plus le taux de cotisation et qu'on n'augmente plus les impôts. Et donc que cette partie-là du PIB n'augmente plus. Du coup, forcément, la partie classique, la partie capitaliste du PIB, retrouve toute sa place. Et donc, comme les salaires directs n'augmentent pas, eh bien, c'est le profit qui voit sa part augmenter. Mais l'augmentation de la part du profit dans le PIB, c'est certes, pour une part, la croissance des dividendes, mais c'est pour une part non négligeable, le gel de la partie du PIB correspondant à la production des fonctionnaires et de la sécurité sociale. L'impôt est passé de 21 à 18% du PIB au cours des dernières décennies. La cotisation est gelée, on le sait tous. Hein, le taux de cotisation n'augmente plus. Donc du coup, vous avez la dynamique capitaliste continue, donc vous avez la valeur capitaliste continue à augmenter, comme elle continue à augmenter, mais la valeur anticapitaliste, elle n'augmente plus. Donc du coup, dans la structure du PIB, évidemment, compte tenu que par ailleurs, dans la valeur capitaliste, les dividendes augmentent sans que les salaires directs, eux, augmentent, puisqu'ils sont gelés, les salaires directs sont gelés, ou augmentent de pas grand-chose, de 0,5 point, etc., etc., bon... Vous allez avoir dans la structure du PIB une croissance de la part du profit. Hein ? Mais cette croissance de la part du profit s'explique à la fois par le gel des salaires directs, oui, bien sûr, et par le gel de l'impôt et des cotisations sociales. C'est un point très important, ça, hein, parce que ça nous évite ensuite des errements, hein, en disant on va taxer ces salauds et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, c'est la façon de dévoyer l'exaspération populaire. Il y a une exaspération populaire devant ces salauds. C'est insupportable, d'accord. C'est ces gens qui s'en foutent plein la lampe alors même qu'ils ferment des usines, etc., etc. Bon, mais cette exaspération populaire, nous la dévoyons en disant on va les taxer. Nous la dévoyons. Parce que ça nous fait lire la cotisation comme un impôt. Alors que notre ambition, c'est pas de faire bouger la part relative du travail et du capital dans la valeur. Ce qui laisse à nos maîtres toujours leur maîtrise. Notre ambition, c'est d'imposer une nouvelle définition du travail. Sinon, à quoi bon ? À quoi bon leur piquer plus si c'est pour aller tous les dimanches à Castorama ? À quoi bon ? À quoi bon ? Tout ça ne sert à rien de leur piquer plus. La question centrale, c'est comment allons-nous changer la définition du travail ? Il n'y a pas d'autre question. Et ce changement, il est déjà là. C'est ça la question intéressante. Et il est déjà là avec l'impôt et avec la cotisation. Les deux institutions, de ce point de vue-là, ont la même signification. Mais pourquoi est-ce que les réformateurs, qui sont contre l'impôt, évidemment, sont encore plus contre la cotisation, au point qu'ils veulent non pas augmenter les impôts, mais que le champ de la cotisation devienne le champ de l'impôt, hein, qu'on remplace la cotisation par de la CSG. C'est parce que, encore une fois, en tout cas, jusque dans les années 90, hein, la cotisation n'a jamais été lue, en tout cas, comme une ponction sur le salaire, puisque la hausse massive du taux de cotisation était accompagnée d'une hausse du salaire brut. Donc si vous augmentez le salaire brut, la hausse du taux de cotisation n'a aucune incidence sur le salaire direct. Donc dans l'opinion populaire, vous avez eu une adhésion, mais massive, à la cotisation sociale. Très massive. Alors, pas d'abord pour la raison que ça reconnaissait du travail libéré de la convention capitaliste du travail. Parce que bien souvent, y compris les promoteurs de la sécurité sociale, l'ont lu comme de la solidarité. Comme une ponction sur la valeur capitaliste qui permet de la solidarité. Mais ça a été lu comme la garantie des soins de santé, comme la garantie de la retraite, enfin comme quelque chose qui apportait vraiment des garanties très, très bénéfiques. Aujourd'hui, l'enjeu des réformateurs, c'est soit de nous faire lire la cotisation comme un impôt, ça c'est toute l'entreprise de Piketty, et ils sont aidés par ça, par le mode même de calcul. Le salaire brut, c'est un truc qui n'existe pas, mais c'est une fiction qui permet d'entretenir l'idée que la cotisation salariée est prise sur le salaire et que la cotisation employeur est prise sur le profit. Vous voyez la distinction, le fait d'appeler cotisation salariée, cotisation employeur, induit un peu la même chose que la lecture fiscale. Il y a une partie qui est prise sur le profit, une partie qui est prise sur le salaire. Mais la partie prise sur le salaire, en tout cas, n'a jamais été vécue comme telle et de fait ne l'était pas, tant que le salaire brut a augmenté au même rythme que le taux de cotisation. Aujourd'hui, enfin depuis une trentaine d'années, les cotisations augmentent très peu, mais les salaires bruts, eux, n'augmentent pas. Et donc, s'il y a une hausse, même minime, du taux de cotisation, ça vient diminuer le salaire net. Vous avez aujourd'hui une réaction syndicale assez effroyable, d'ailleurs, au demeurant, qui se plaint de la hausse du taux de cotisation, en disant que les salariés vont payer. Aucune revendication de hausse du salaire brut. Aucune. Une plainte contre la cotisation. On a complètement intégré, de fait, la lecture fiscale de la cotisation. C'est dramatique, d'ailleurs, d'un point de vue idéologique. Mais dans sa pratique institutionnelle, la cotisation ne pique rien, ni au salaire, ni au profit. Elle accompagne, enfin plus exactement, elle vient entière dans le partage d'un PIB qu'elle augmente d'autant. Donc elle ne pique rien aux deux autres parties. Et ce tiers, pour être sûr qu'il ne va pas, que les patrons ne vont pas la réduire, puisqu'ils ont une haine de ce tiers qui reconnaît du travail, qui subvertit leur définition du travail et qui donc potentiellement est totalement subversif de leur pouvoir, La classe dirigeante, elle mène toujours une lutte politique. Politique. Si nous la lisons comme une lutte économique, ils ne veulent pas qu'on leur pique leurs sous. On est foutu. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on leur pique leurs sous. Ils ne veulent pas qu'on leur prenne le pouvoir. C'est ça la question. Et prendre le pouvoir, c'est maîtriser le travail, sa définition, sa production, sa répartition, maîtriser la valeur économique. Donc, de fait, dans les têtes aujourd'hui, c'est pour ça que Piketty peut nous faire croire qu'il est à gauche. Hein. Et d'ailleurs, quand même, les hommes de droite les plus habiles, ils sont à gauche. Je sais pas quoi. Fillon aurait plus d'allure s'il était à gauche. Vous voyez, il pourrait même faire croire qu'il est contre le Front National, comme nos hommes de gauche, hein, qui l'entretiennent en permanence. Alors là, il est un petit peu obligé de se mettre avec. Alors qu'entre héros, voilà, il est un bel homme, d'accord, hein. Entre héros et Fillon, je vois quelle est la feuille de papier de cigarette qui les sépare, on se le demande. Rien ne les sépare, c'est vraiment les deux mêmes. Bon, des sosies, hein. Les plus habiles tombent à gauche, évidemment. Les autres, quand ils choisissent à la fin de l'ENA, est-ce qu'ils vont être à gauche ou à droite? Il y a quand même un moment où il faut choisir. Il y a un moment où on choisit, ça se fait par des dîners en ville, des machins, on tâte le terrain. Bon, est-ce que je vais plutôt à gauche ou à droite? Bon, etc. Bon. Les plus habiles vont à gauche, bien sûr. Rocard, voilà. Magnifique exemple d'homme de droite extrêmement habile, bien sûr. Piketty, donc voilà, Piketty pour être dans le champ intellectuel, là nous sommes évidemment dans un homme de droite qui est à gauche, c'est avec Rosan Vallon, vous voyez, c'est toute cette dérive intellectuelle, hein, du champ intellectuel depuis 60, avec, ça a commencé par Furet, hein. Furet, c'est beaucoup l'école et aux études en sciences sociales hein, qui est porteuse de tout ça, c'est pas l'université, l'université est beaucoup plus résistante à tout ça que ces institutions genre Collège de France, avec les études sociales, elles sont très vulnérables à tout ça, c'est pour ça qu'elles sont encensées évidemment en permanence, hein. L'université c'est de la merde, etc., bien sûr, c'est des lieux de résistance intellectuelle plus intéressants quand même que tous ces lieux-là. Donc vous avez là donc Furet, Rosan Vallon, Piketty, hein, en termes de génération. Hein. Rosan Vallon gaucher, mais enfin ils vieillissent ces gens-là, hein, et donc maintenant c'est Piketty qui prend la relève et qui effectivement nous organise hein, cette lecture de la cotisation comme un impôt, et en disant après tout, puisque c'est un impôt, autant que ce soit un bon impôt. Un bon impôt, c'est un impôt progressif. Alors que la cotisation, elle est proportionnelle. Donc, ce n'est pas un bon impôt. Un bon impôt, il est assis sur tous les revenus. Alors que la cotisation, elle est assise, ce qui n'est pas vrai. Hein, elle est assise sur la valeur ajoutée. Enfin, on va dire, pour faire vite, qu'elle est assise sur le salaire. Il faut vraiment que nous réfléchissions très sérieusement hein, sur la mystification qu'apporte le mode de perception de l'impôt, hein. La mystification de moindre importance, c'est pour ça que jusqu'ici la cotisation a résisté, mais enfin, pour combien de temps, c'est pas sûr, hein. Qu'apporte la distinction entre cotisation employeur et salarié et la notion même de salaire brut, hein, qui n'a aucune réalité autre que de convention comptable. C'est une convention comptable, c'est tout, mais c'est une convention. Vous savez très bien que les normes comptables sont performatives. Hein. Les normes comptables, c'est un récit du réel. Hein, et c'est toujours un récit de droite du réel. Les normes comptables, c'est un des lieux décisifs dans lesquels se tient l'idéologie dominante. Il y a eu à Nanterre une magnifique soutenance sur la compta publique, la compta nat de la sécurité sociale depuis 49, enfin depuis 44, même depuis les premiers débats sur la compta nat, début septembre, qui montre bien le caractère performatif des normes comptables. Et c'est vrai que, de même que quand nous payons l'IRPP, nous avons l'impression que c'est sur notre travail qu'il est payé, alors que nous servons simplement de boîte aux lettres, c'est tout. S'il n'y avait pas de fonctionnaires, il n'y aurait pas de TVA. et nous serions moins payés parce qu'on n'inclurait pas la TVA dans notre salaire. Enfin, on n'inclurait pas la TVA dans les prix des marchandises et donc nous serions moins payés puisque les marchandises coûteraient moins cher. Contrairement à ceux qui disent que si on privatisait la fonction publique, eh bien on pourrait affecter à une consommation privée d'école ou de santé les sommes qu'on affecte aujourd'hui à la TVA ou à l'impôt. C'est absurde. Les sommes que nous affectons à la TVA et à l'impôt, ce n'est pas nous qui les avons produites. Ce sont les fonctionnaires qui les ont produites. De la même façon que la cotisation vieillesse, ce n'est pas nous qui la produisons. C'est le retraité qui la produit. La cotisation maladie, ce n'est pas nous qui la produisons. C'est le soignant qui produit la cotisation maladie. Sauf à penser que le soignant est quelqu'un d'improductif. Mais c'est précisément... Si nous pensons ça, c'est que nous sommes totalement aliénés à la définition capitaliste du travail. Du coup, et je le vois dans une dérive qui est entretenue par la classe dirigeante, mais alors vraiment entretenue. Il suffit de voir l'initiative citoyenne européenne sur leur venue de base. La chaire ouverte à l'Université catholique de Louvain pour répandre la bonne parole du revenu de base dans toute l'Europe, les sommes phénoménales que la Commission européenne, enfin phénoménales à comparer à celles qu'elle attribue à d'autres choses, à ce genre d'initiative. Vous voyez comment une classe dirigeante qui n'est plus légitime dans sa maîtrise de la valeur économique, parce qu'elle nous mène dans le mur écologique, parce que la façon dont elle mesure le travail rend le travail concret impossible. Multiplie la souffrance au travail, parce que la mesure de la valeur économique par le temps est génératrice de souffrance incroyable. Parce que la valorisation de capitaux qui oblige à poser des actes qu'on ne ferait pas si on n'était pas soumis à cette valorisation, est source de souffrance considérable. Bref, l'incapacité dans laquelle est la classe dirigeante d'assumer la fonction de la classe dirigeante, c'est-à-dire organiser la production de valeurs économiques, fait qu'elle a tout intérêt, et elle cultive cela, à ce que nous fassions deux parts dans nos vies. Et que nous naturalisions le fait que le travail, c'est de la merde.